Bonjour. Donc je me propose d'évoquer quelques-uns des musées que j'ai réalisés avec Catherine Frénac, mon associée, au cours des dernières années. Donc certains sont réalisés, certains sont restés sur le papier, comme de nombreux projets, et d'autres sont encore en gestation. Et je remercie Jean-Louis Collègue pour cette invitation dans ce cadre prestigieux et généreux, puisqu'il partage avec le musée l'idée d'une appropriation par tous des moyens de la culture. Donc je propose de suivre un fil thématique pour cette présentation qui va faire une promenade au travers de quelques-uns des projets que nous avons. Donc un fil thématique, ou plutôt deux. Le premier, c'est celui des liens fondateurs entre parcours et récit, qui me semble être un lien absolument essentiel à la notion même de musée. Et d'autre part, le rapport entre ce récit muséal, qui est propre aux collections, donc propre au musée, et l'histoire des lieux qu'il abrite. En effet, et comme on l'a vu avec l'intervention précédente, il se trouve que ces lieux, ces musées, investissent bien fréquemment, et de plus en plus souvent, des lieux existants, qui sont transformés, agrandis, ou simplement rénovés. Les nombreuses déclinaisons et les variations de la notion de musée, donc musée de site, musée de plein air, site industriel visité, écomusée, et on pourrait tirer encore ces déclinaisons jusqu'au centre d'interprétation, vont de pair, centre d'interprétation qui ne comporte pas nécessairement de collection, eux, vont de pair en effet avec l'extension tous azimuts de la notion de patrimoine, les différentes catégories qui ne cessent de croître depuis que le terme même est défini dans son acception contemporaine, la multiplication de lieux de mémoire, voire même de commémoration. Donc il m'a semblé que c'était bien, en effet, une expression du musée contemporain, qui est le thème de cette journée, que ce fil conducteur permettait d'aborder lieu, récit, parcours. Puisque donc, et Jean-Louis Collègue l'a rappelé, on a une multiplication de musées. Beaucoup de musées neufs sont construits, beaucoup de bâtiments neufs, ce qu'on appelle l'effet Bilbao, dont il a été question dans ces murs, mais également des myriades de lieux réinvestis, transformés, et dont on vient de voir quelques exemples. Le choix de ce fil thématique est par ailleurs lié à une spécificité de notre pratique. Nous sommes architectes et muséographes, donc nous fabriquons les contenus et les contenants, et donc nous attachons justement à imbriquer ensemble le récit des lieux et le récit des collections. Donc, exposer, c'est toujours mettre dans un espace, dans un lieu donné, qu'il soit existant ou qu'il soit à créer, une série d'objets, de choses que l'on assemble dans un ordre précis. Il y a donc toujours un récit plus ou moins réussi, mais un récit. Lorsque cette exposition prend place dans un lieu préexistant, qu'il s'agit d'occuper, d'agrandir, de transformer, il y a toujours une histoire préalable. Les valeurs d'histoire et de mémoire, d'usage, d'ancienneté, entrent donc en jeu et parfois en conflit quand il est question d'adapter un bâtiment. Et enfin, un degré supplémentaire, une couche supplémentaire de complexité, on peut dire, est atteinte lorsqu'il s'agit d'un musée de site où le lieu lui-même est un objet de la collection. Donc le récit importé doit alors réagir à l'histoire inscrite dans le site, voire la commenter et commenter, se glisser dans ses variations discursives. Alors, dans ma boîte à outils personnelle, de même que Jean-Paul Philippon, je pense, j'ai évidemment de très nombreuses références, et deux en particulier qui me semblent toujours d'une grande actualité, bien qu'elles soient fort anciennes. Donc, d'une part, pour transmettre ce récit aux visiteurs, j'imagine toujours que le recours à l'art de la mémoire, vous voyez sur une tentative de représentation dans l'une des publications, que l'art le recours à l'art de la mémoire qui associe l'ordre des choses et l'ordre des lieux est légitime et fécond. Je reviendrai dessus au travers des exemples. Donc cet art de la mémoire, art mnémonique, très loin des vulgaires procédés de mnémotechnique que nous connaissons tous, hérité de l'Antiquité et qui était enseigné alors comme une partie de la rhétorique, a des liens puissants et mystérieux avec l'architecture et me paraît être fréquemment ressurgir dans la plupart des projets que l'on a à faire en tant que muséographe et architecte de musée, et était certainement enchâssé dans la réflexion de Soane lorsqu'il construisait, agençait, modelait sans cesse ces trois maisons-musées qu'il a installées à Rome pendant de longues années. Et j'aime aussi penser que le texte d'Aloïs Riegel, « Le culte moderne des monuments », écrit il y a plus d'un siècle, a fourni toujours des outils d'une actualité très grande. Donc justement, c'est cette collection de termes d'une grande simplicité, d'une grande limpidité, absolument percutant, qu'il a forgé, ces expressions, valeur d'histoire, valeur de mémoire, qui n'est bien sûr pas la même chose, valeur d'ancienneté, qui va venir rentrer en contradiction avec les valeurs d'usage qui s'imposent à nous lorsqu'on doit remettre à jour, moderniser, mettre au niveau d'un grand équipement culturel tous ces lieux dans lesquels nous avons la chance de travailler. Donc ces différents registres, ces différents outils me semblent être donc féconds et tout simplement opératoires pour travailler ces jeux complexes que je voudrais essayer d'illustrer à travers quelques projets que je choisis d'aborder uniquement à travers la question du parcours des lieux et des récits en espérant que ce soit une entrée un peu privilégiée aujourd'hui. Donc quelques-uns des exemples, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais j'ai choisi de les organiser. Ce sont des projets qui sont parfois tout à fait circonscrits, parfois plus importants, qui tiennent parfois en peu de choses, parfois ont demandé des modifications plus importantes des lieux qu'ils investissaient, mais ils ont en commun d'être tous des réponses simples à des questions et à des lieux complexes. Et à chaque fois, ce sont bien sûr des histoires, et pour pouvoir expliquer en quelque sorte en quoi le parcours architectural, le parcours muséographique, qui suppose donc tout d'abord de l'imaginer à distance et ensuite d'imaginer les visiteurs qui doivent jouir donc, de ces collections, de ces situations, vont pouvoir l'emprunter. Tous nécessitent donc un enchaînement d'espaces, de séquences, des poses, des points de vue qui fabriqueront la matière du musée. Et donc chacun d'eux a une histoire particulière que je vais essayer dont je vais essayer de donner l'essentiel simplement pour avoir les clés des questions posées. Le parcours d'œuvres d'art sur la dalle de la Défense, donc c'est un projet qui est à la fois énorme et absolument minuscule dans sa réalisation finalement. La commande, c'est qu'une soixantaine d'œuvres d'art est disséminée aujourd'hui à la Défense. Beaucoup d'entre nous en connaissent certaines, on connaît tous l'araignée de Calder, qui donne d'ailleurs son nom à une des sorties du métro de la Défense. On connaît aussi les personnages de Miro, qui est en face du Calder. On connaît moins toute une foule d'autres œuvres d'artistes modernes, certains extrêmement connus, d'autres beaucoup moins, comme par exemple le cercle déplacé de Hologin, qui est incrusté dans le sol, ou encore l'œuvre géante d'Anthony Caro, After Olympia, qui était jusqu'à il y a quelques mois garée le long du CNIT. Donc une soixantaine d'œuvres qui ont été pour la plupart commandées à des artistes pour un lieu donné, donc, et qui sont incrustées dans ce formidable espace public de la Défense. La commande était que l'établissement public, un nouvel établissement public dans l'histoire mouvementée de la Défense, l'EPADESA n'est pas le seul établissement public depuis quelques années, mais un autre établissement public du nom de de facto est sorti de sa côte droite pour tenter de gérer l'espace public de la Défense. Il en a donc une lourde charge, la gestion et l'animation des espaces publics. Lourde charge parce que, comme vous le savez, la Défense est une sorte de mégastructure qui s'ignore, avec 36 hectares de dalles en surface et bien plus nombreux hectares en sous-face qui sont finalement relativement mal connus des gestionnaires et qui posent énormément de problèmes. Donc la commande était rendre lisible, faire connaître, faire exister finalement cette collection qui s'est lentement sédimentée à partir des années 70 et dont la sécrétion a été stoppée dans les années 90. Donc la commande de ce concours était finalement faire collection, du moins on y a répondu de cette manière-là, rendre lisible cette collection, lui donner une légitimité, donner une légitimité également à son commanditaire. Donc la réponse que nous avons apportée, il s'agissait donc d'un musée sans maison, puisque la maison, c'est la Défense. Donc c'est ce quartier de ville absolument fascinant et terrifiant. Et il s'agissait donc de répartir des œuvres pour qu'elles puissent trouver une lisibilité, un enchaînement visuel qui les fasse exister dans cette immensité. Nous avons donc répondu par un certain nombre de déplacements et par des actions extrêmement simples de ce qu'on appelle la cartélisation, désignée, éclairée, et puis tout un travail souterrain de documentation également de toutes ces pièces qui vivaient dans une amnésie finalement assez récurrente, de restauration propre aux objets d'une collection involontaire qui s'était finalement sédimentée. Donc cette mise en scène, disons mise en valeur des pièces de la collection, était pour nous l'occasion de réfléchir au-dessous de la Défense et tenter, à travers des réponses extrêmement simples, à travers un parcours, justement un parcours urbain, qui n'est pas à proprement parler un parcours, un musée, mais bien un parcours à travers une collection, de montrer un peu, de faire lire le monde englouti de la Défense qui entretient des rapports assez secrets avec le monde du dessus. Et pour cela, organiser les œuvres donc, dans un parcours qui soit limpide, ce qui est quelque chose d'assez difficile à la Défense, qui est plutôt connu comme une sorte de labyrinthe urbain vertical où l'on se perd et on ne se retrouve pas. La commande était d'organiser des parcours thématiques au travers de cette collection. Nous l'avons détourné, cette commande, en proposant au contraire de spatialiser les parcours, c'est-à-dire au lieu de tenter, par le biais de la géolocalisation ou d'applications numériques complexes, de se frayer un passage dans l'imbroglio urbain de la Défense, plutôt avoir une réponse extrêmement simple qui renvoie à une carte mentale du lieu, cette figure en poire que n'importe qui, qu'il soit visiteur, habitant ou touriste, peut à peu près comprendre, organisée autour d'un grand axe qui file évidemment depuis l'Arche de la Défense jusqu'à Paris et jusqu'au Louvre, et qui donc s'inscrit dans la mémoire collective et tout simplement dans la géographie. Donc, et de fixer sur cet axe majeur, sur lequel les œuvres majeures donc, sont disposées, de fixer un certain nombre de branches qui s'immisceraient dans les quartiers, et donc d'abandonner le schéma thématique pour un schéma spatial. Cela a une conséquence extrêmement simple sur les dispositifs muséographiques, scénographiques on peut dire, qui était que cette espèce de petit poussé géant est tatoué sur le sol de la Défense par le biais de cartels qui renvoient des cartels géants gravés dans le sol, on peut le dire, gravés dans le marbre, puisqu'ils sont en marbre, et qui renvoient d'œuvre en œuvre. Donc des déplacements comme cette œuvre d'Anthony Caro qui a pris place sur cette grande chambre extérieure de l'axe, mais en se déportant sur le côté naturellement pour ne pas voler la vedette aux deux arches en elles-mêmes. Les cheminées qui sont en fait des cheminées d'aération géantes de l'autoroute souterraine, donc arriver à faire comprendre leur rôle à la fois plastique et infrastructurel. Et encore nous avons fait commander des œuvres à des artistes contemporains, comme ici Alain Bublex, avec son pavillon des points de vue, qui suit le chantier, puisque 60 œuvres, c'est 60 chantiers dans un site complexe, et qui organise justement, qui manifeste ce jeu de regard et d'enchaînement programmatique. Et enfin, nous plaidons pour les visites d'œuvres en sous-sol, qui sont dans les chutes, dans les soutes de cette mégastructure, dont vous voyez à droite qu'elle est lardée d'infrastructures, d'autoroutes, de métro, de RER. Entre ces infrastructures se décident des vides souterrains géants qui sont assez fantasmatiques et dont certains sont ont été investis par des artistes comme ici Moretti, qui en a fait son atelier, et donc une œuvre souterraine que nous voulons montrer au travers d'un périscope sur le dessus de la dalle de la Défense. Donc il s'agit d'un parcours, mais d'un parcours urbain, dans un urbanisme très, très particulier. Un autre exemple que je vais tenter de montrer par le biais du parcours et du récit, là cette fois-ci il s'agit d'un musée, un musée un petit peu canonique, le musée de Picardie, qui a été construit, donc comme on le voit et le soulignait Bruno Foucard dans cet article-là, construit au tout début du Second Empire comme un modèle de musée. Et c'est un des premiers, le premier, dit-on en Picardie en tout cas, le premier musée construit pour en être un, donc construit ex nihilo, après les exemples qu'on peut avoir en Allemagne, en Angleterre, comme la Dulwich Gallery. Le musée Picard donc était un événement et un musée donc ultra moderne construit par à l'initiative d'une société savante, la société des antiquaires de Picardie. Donc ce musée qui se voulait un petit Louvre, comme beaucoup de ces musées du Second Empire, réunit des collections en effet relativement encyclopédiques, des collections archéologiques, des collections de peinture. Les célèbres puits d'Amiens qui étaient exposés dans la cathédrale y ont trouvé refuge, et également depuis quelques années s'enrichit de collections contemporaines. Donc une très lente reconversion de ce musée a été amorcée dans les années 70, d'abord le sous-sol avec des collections archéologiques, ensuite le rez-de-chaussée avec les collections de sculptures, et l'étage attend toujours sa rénovation. Donc la question de ce musée est bien sûr une rénovation pour atteindre les critères des musées modernes qui sont aujourd'hui des institutions culturelles, économiques, touristiques, des machines bien plus complètes et bien plus complexes, ça a été dit, en termes d'accueil du public, naturellement, que le temple du savoir qu'il souhaitait être, pour simplifier, au XIXe siècle. Donc, tout un tas d'aménités qu'il fallait bien arriver à trouver à l'intérieur de ce musée, aménités qui comprennent des salles de conférences ouvertes en dehors du musée, des cafés, des ateliers pédagogiques, enfin tout un ensemble de fonctions, d'usages qu'il faut arriver à glisser dans un bâtiment et dans une parcelle. Alors plutôt que de parler aujourd'hui, on pourrait développer bien sûr les parcours intérieurs, comment un musée modèle du XIXe siècle, avec une muséographie du XIXe siècle qui ajustait le décor de fond aux collections, comme ici vous avez en bas à gauche la chapelle qui était destinée aux collections d'art religieux, ou encore un musée avec d'immenses cycles de fresques comme celle de Puvis de Chavannes, des décors comme vous voyez à droite dans un dessin de synthèse d'aujourd'hui, des décors extrêmement foisonnants mais qui ont disparu pour la plupart, avec les dommages du temps, les destructions de la guerre. Comment faire pour réinvestir l'intérieur de ce musée avec des collections qui, naturellement, se sont également agrandies et n'ont pas la même nature. Donc, ça, c'est une question que l'on a abordée. Mais ce que je souhaiterais plutôt aborder aujourd'hui en termes de cette adéquation ou de cette invention perpétuelle qui est nécessaire quand on fabrique un musée aujourd'hui, ce travail entre parcours, lieu et récit, c'est plutôt la question du rapport à la ville de ce musée. Il se trouve que ce musée, dès l'origine, et vous le voyez sur cette image de gauche, dès l'origine, ce grand quadrilatère, qui a été donc la réponse de l'un des architectes du concours, organisé dans les années 1850-1860, la réponse de ce grand quadrilatère peinait à trouver sa place sur cette parcelle, et très tôt a dû s'agrandir, et dans son intérieur, et sur l'arrière. Et les espaces public, plus exactement la série des jardins qui l'entouraient, jardin arrière à l'anglaise, jardin devant, entre ces deux parenthèses, colonnades, et tente donc d'occuper au maximum l'espace de la parcelle sur la rue de la République, qui est la grande rue, dite rue du pouvoir, amiénoise aujourd'hui. Alors, ce musée donc, souffrait cruellement de place, s'est agrandi dès l'origine en différents points. La cour intérieure a été comblée quelques années après l'ouverture. Un pavillon arrière que vous distinguez ici a été construit au début du XXe siècle. Et les allées latérales étaient encombrées également par les services du musée. Donc notre réponse a finalement été, dans ce cas-là, de tenter d'imaginer pour cette mue d'un musée moderne, cette modernisation, de lui donner une place, une assise différente dans la ville, de l'ouvrir sur l'extérieur et de travailler pour cela ses limites. Donc vous voyez sur l'image de droite, une série à la manière d'un puzzle, une série de pièces de chambres vertes dont la géométrie est calée finalement sur la géométrie intérieure du musée, qui en dérive sa logique, mais qui permet une accessibilité, des traversées multiples depuis la rue de la République, depuis la rue Puvis-de-Chavannes, depuis la rue Lardière, et même sur l'extérieur, sur un jardin suspendu qui fabrique un paysage de l'intérieur. Donc les différentes pièces du musée. Il s'agit toujours d'une extrapolation, finalement, partir de ce qui existe, et de la même façon qu'au XIXe siècle avait été extrapolée cette pièce centrale, de fabriquer d'une simple addition ancienne un pivot qui devienne l'entrée, avec un retournement de l'accès du public à l'arrière du bâtiment et toutes les aménités à l'arrière. Donc le travail de tricotage d'un plan, de comprendre quelle est la métrique de ce palais pour ensuite proposer des éléments nouveaux. Comme cette grande lame à l'arrière, un grand bâtiment à colonnades qui emprunte ses règles à l'architecture du palais, que malheureusement vous n'arrivez pas à lire parce que la diapo est très claire, et qui par le jeu d'une sorte de décantation de l'architecture initiale, qu'évidemment on aurait du mal on se refuserait à pasticher, d'arriver à trouver un écho. Et ce parcours urbain qui fait que l'on passe d'un temple du savoir, Jean-Paul Philippon montrait le modèle un peu, une sorte d'icône du musée resté sur le papier de Boulay. Les musées du 19e, quand ils en ont tous les attributs, sont souvent conçus comme des temples du savoir, et donc cette mue d'un temple du savoir à un équipement contemporain, mais qui utilise toute la richesse de ce bâtiment existant, on a essayé de la retrouver donc dans cette dans ce parcours extérieur et intérieur, puisque le grand axe qui organise l'ensemble se retrouve avec un enchaînement du bâtiment neuf, un patio, le nouvel accueil, la salle de Sol Lewitt, où Sol Lewitt a installé une œuvre dans les murs même du palais, le grand salon que l'on reparcourt, l'escalier Puvis-de-Chavannes et l'ouverture sur la rue de la République. Donc un autre parcours, une autre histoire, un contexte entièrement différent. La caverne du dragon. La caverne du dragon, sur le chemin des Dames, est un haut lieu de la Première Guerre mondiale, donc situé sur une ligne de crête. Cette ligne de crête a cristallisé des combats, en particulier en 1917, au moment des offensives Nivelles, de triste mémoire, qui ont été un désastre, donc avec un coût humain monstrueux, en partie lié à une stratégie militaire qui a très tôt été jugée inepte. Donc ce site très emblématique, très douloureux de la Première Guerre mondiale, est aujourd'hui dans un paysage d'une grande douceur, très, très, très bucolique, que l'on voit un peu sur cette image, où la violence des conflits est tout à fait gommée, ou plus exactement ensevelie, sous les champs qui recouvrent les obus, les mines et les trous dans le sol. On voit sur cette carte, ici, une carte ancienne, une carte de 14-18, les deux fronts qui s'opposent et qui se stabilisent, donc, comme chacun sait, en tranchées de part et d'autre de cette ligne de crête un peu isolée dans un vaste territoire, ce qui lui vaut d'ailleurs d'avoir cristallisé les conflits. Et on distingue ici cette petite tache rouge, qui les rouges étant les Français et le bleu les Allemands dans les codes de ces cartes de guerre. On distingue ici cette tache rouge est une ancienne carrière dont cette crête calcaire était truffée, cette fameuse caverne du dragon ainsi nommée par les Allemands, Drachenhol, parce que elle a été occupée successivement par les deux armées et très longuement par les Allemands qui avaient utilisé l'une des parties pour en faire une cuisine avec une extraction qui donc fumait, d'où ce nom. Donc on comprend avec cette carte très fascinante, me semble-t-il, la violence des combats avec cette carte de tir qui explique l'importance de cette position haute. Alors là aussi, il s'agit d'un musée de site, d'une histoire hybride, comme un peu toutes celles que j'ai choisi de vous présenter. Donc un musée de site qui est évidemment un lieu de mémoire et également un enjeu politique, puisque la caverne du Dragon, dans le département de l'Aisne, est liée aux mutineries de 17, à la suite, pas que, mais également à la suite des offensives Nivelles. Donc cette fameuse année 17, très mouvementée sur tous les fronts, aux mutineries, donc à leur répression, et donc à l'épineuse question des fusillés de guerre. Quel traitement mémoriel leur réserver ? Le discours de Jospin en 92 lève l'omerta sur la question des fusillés et les réintègre d'une certaine manière dans la mémoire officielle. Et le résultat palpable de ce nouveau discours officiel est la construction d'un bâtiment confié à Nasrin Seradji. Donc ce n'est pas le nôtre, c'est le bâtiment de Nasrin Seradji que vous voyez ici, le chemin des Dames devenu une route départementale, et ici une représentation de la caverne tapis sous la crête calcaire, et puis le bâtiment construit donc dans les années 90 qui donnait accès à la caverne. Ce n'était pas encore un musée, c'était plutôt un pavillon, une sorte de centre d'interprétation, un lieu qui peinait à trouver son nom. Et la commande était, à laquelle nous avons répondu, était de transformer cette simple visite et pavillon d'accueil en un musée du chemin des Dames, assorti d'une collection digne de ce nom, donc une collection liées au conflit et organisées par ordre chronologique, avec pour mission également de renvoyer au territoire du chemin des dames. Donc ici, le bâtiment initial, où on comprend qu'il y a donc un vaste parking, un bâtiment posé sur la crête et dans un rapport au sol moins résolu du côté pile que côté face. Donc la proposition ici, c'est un parcours, là aussi. Le parcours a une importance considérable et l'enjeu, nous semblait-il, était donc pour arriver à mettre ensemble cette histoire tragique les collections et ce paysage d'une grande douceur que l'on voyait aujourd'hui et bien sûr l'objet du désir tapis en dessous qui est cette caverne, qui a cette ancienne carrière qui est un endroit tout à fait fantastique et qui a sa propre vie. C'était essentiellement d'organiser la descente aux enfers ou la descente au refuge. Nous avons donc choisi dans un premier temps, c'est ce qui aurait pu exister puisque le projet s'est arrêté, une décantation pour arriver à travailler en soustraction et offrir pour que l'expérience de la descente, le rapport au paysage, au cadrage, soit beaucoup plus clair qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est une grande avancée vers le bâtiment et ensuite une descente qui se fait de deux manières, par un grand mont de charge qui pénètre dans les entrailles de la falaise, et un retour pour ensuite rentrer dans le bâtiment, et un retour du parcours qui, lui, se fait par une série de rampes successives avec de grands cadrages sur le paysage qui renvoient à des points particuliers, puisque au-delà du site, c'est tout un territoire qu'il faut faire comprendre. Donc, on voit le bâtiment existant de Serradji sur la gauche, et les éléments, toute une partie qui a disparu, et les éléments que nous avons rapportés, qui sont plus tectoniques et plus massifs. Donc, il s'agissait bien d'un parcours, cette fois-ci, topographique et géographique. Alors, un autre type de parcours, encore un lieu existant extrêmement complexe, extrêmement saunien, on pourrait dire, par ses multiples histoires enchâssées, une crypte archéologique qui se trouve à Boulogne-sur-Mer, donc sous une immense cathédrale basilique construite par un abbé autodidacte au XIXe siècle. Cette vaste crypte de plus de 1000 mètres carrés dormait donc inaccessible au public, comme c'est souvent le cas pour les lieux souterrains qui sont complexes à faire visiter pour des raisons de sécurité. Voilà, on trouve là les conflits entre valeurs d'usage et valeurs d'ancienneté. Donc cette crypte humide, souterraine, magnifique, avait été donc édifiée au moment de la construction de cette cathédrale et avait digéré une crypte gothique, une crypte romane qui se trouvait précédemment sur le lieu et de surcroît était construite au-dessus de vestiges romains puisque Boulogne-sur-Mer est également une ville d'origine romaine. Donc une multiplication des strates, un palimpseste, comme on le dit souvent, qu'il s'agissait d'ouvrir au public, et la mission là qui nous était confiée était d'expliquer les différentes parties du bâtiment, d'expliquer le cycle de fresques peintes à la grisaille qui ornaient les murs au XIXe siècle, et puis ajouter une collection, une sorte de trésor d'art religieux et de lapidaire, d'éléments qui, eux, ne venaient pas nécessairement de la basilique. Donc, quelque chose d'assez complexe, à laquelle on a répondu par on a essayé également de répondre de façon simple, avec un geste unique, pour plutôt que d'expliquer, plutôt que de repérer, de désigner chaque partie de cet ensemble extrêmement atmosphérique, extrêmement abîmé, nous avons choisi donc de nous pencher plutôt, d'aller plutôt dans le sens de l'évocation, des jeux de mémoire, chacun se remémorant ce qu'il souhaite, plutôt que de l'explication didactique qui est souvent attendue dans un musée. Donc le plan labyrinthique, d'aspect labyrinthique, a été maintenu et les fresques ont été simplement stabilisées de manière à garder justement cette valeur d'ancienneté qui nous semblait beaucoup plus belle, tout simplement, et de nature à leur donner une qualité plus grande que si elles étaient réellement restaurées, et puis d'inviter, donc, par le biais de ce sol en béton de chaux, d'avoir en quelque sorte un seul invité qui organise tout, la lumière, les repérages, les vitrines, et de fabriquer ces télescopages donc, qui permettent non pas de comprendre, mais qui donnent des indices d'une histoire complexe et du temps des différentes conversations engagées sur cet endroit. Donc les vitrines étaient de ce fait conçues pour être comme liquides, quoique climatisées, avec tous les attributs que ces objets finalement relativement techniques doivent avoir dans des musées d'aujourd'hui, donc liquéfiés par la lumière et par la disposition. Donc là, il s'agit plutôt d'un parcours labyrinthe, un parcours qui assume le palimpseste et qui joue avec des indices. Enfin, un dernier projet qui me tient particulièrement à cœur, qui se trouve dans un lieu extrêmement complexe lui aussi. Il s'agit d'un musée de site qui se déclare musée de site, tandis que les musées précédents le sont de façon plus incidente. Dans le cas du Familistère de Guise, il s'agit bien d'un musée de site et d'un endroit très particulier, puisque là, on va être confronté à la question du parcours, la question du récit d'une collection, mais dans un lieu qui lui-même est une sorte de proclamation, de discours construit, de discours d'engagement social, politique, architectural. Et donc, il m'a semblé que la complexité de ces enjeux qui lient lieu, parcours, récit était plus grande encore dans ce cas-là. En tout cas, on peut le dire, plus importante, tout simplement, enfin, d'un enjeu supérieur. Donc en 1857, Gaudin, qui était un simple ouvrier au départ, devient peu à peu un industriel de talent. Et en 57, donc, il décide, fort de son expérience passée et de sa critique du fouriérisme, il décide de passer à l'acte en France et de faire l'expérience d'une société équitable près de son usine dans l'Aisne, donc une usine de poêles, pas seulement de poêles, mais qui existe toujours aujourd'hui. On connaît tous les poêles Gaudin. Donc en quelques années, il édifie une cité entière, le Familistère de Guise, puisque le Familistère de Guise désigne à la fois, de Guise devrait-on dire, désigne à la fois le palais social et la petite ville tout entière. Donc il construit ce que l'on appelle aujourd'hui, enfin, ce terme d'utopie réalisée, d'utopie construite, qui était naturellement un paradoxe dans les termes, mais qui est pourtant très fréquemment employé pour le Familistère de Guise, jusqu'à d'ailleurs être utilisé dans cette couverture. Donc cette utopie construite est très loin des nombreuses expériences, des relativement nombreuses expériences des industriels paternalistes, puisqu'elle vise a donné à tous, à travers une organisation industrielle, une organisation architecturale, une organisation sociétale, et au travers donc de dispositions, même des dispositions bâties, elle vise à donner à tous les moyens de l'anticipation, de l'émancipation, pardon. Donc, on a pu dire que le phalanstère de briques réinterprétait le phalanstère de papier pour la transposer dans la réalité. En réalité, il y a beaucoup d'éléments fourieristes qui sont réutilisés et beaucoup qui sont transposés, remesurés, abandonnés. Et les propositions de Gaudin sont fort différentes des idées fourieristes. Donc cette petite ville, cet ensemble très très fascinant qui comprend donc ces grandes habitations collectives. Ici on voit dans la brume la silhouette de Gaudin de dos et puis l'ensemble du théâtre et théâtre école. Donc les écoles qui flanquent le théâtre. On a un dispositif également pratique et symbolique, puisqu'il s'agit bien de, là aussi, de donner à tous les moyens de l'expression, et de l'expression écrite, l'expression orale, très, très en avance sur les idées d'éducation, les principes éducatifs qui ont pu être mis en place par la suite. Donc cette société idéale qui avait été notamment consolidée grâce à l'association du capital et du travail créée par organisée par Gaudin à partir de 1880 perd son identité dans les années en 1968 paradoxalement à la faveur d'une crise économique de la société, enfin de la société Gaudin, mais aussi une sorte d'épuisement justement du modèle coopératif. Donc en 68, abandon, division de la propriété et petit à petit la question de son devenir ou de son abandon complet se pose. Et à partir des années 90, suite à la mobilisation de différents acteurs, des associations, la ville, le département, etc., et puis qui prend peut-être peu à peu de l'importance, auquel s'agrègent d'autres bonnes fées progressivement, un projet touristique et culturel, mais aussi économique et politique, voit le jour. Donc un des nombreux projets touristiques et culturels qui fleurissent partout quand on ne sait pas quoi faire de grands sites, qu'on a ce gros problème de grands sites. Donc celui-là s'appelle Utopia et met en œuvre sur un temps très long, à partir de la fin des années 90, la transformation de ce site en lui-même, cette transformation en musée de site. Donc je fais ce long détour parce que la genèse du projet est absolument, comme tout projet, naturellement, nous parlons ici en tant qu'architecte, mais dans tout projet, il y a un client plus ou moins unique, plus ou moins vaste, et la pensée de tous ces lieux, de tous ces musées, est évidemment en grande partie liée à l'intelligence ou à l'absence d'intelligence de la commande. Donc ce travail de reconquête finalement d'une unité fragmentée, puisque l'un des principes de Gaudin est cette idée d'architecture unitaire, l'unité fabriquant finalement étant symbolique de la force du collectif, l'architecture unitaire permettant de rassembler pour tous ce qu'il a appelé dans cette très belle expression des équivalents de la richesse, c'est-à-dire accorder à chacun accorder les équivalents de la richesse à ce que les riches pourraient avoir de façon individuelle à travers la domesticité, à travers de nombreux services. Le pauvre peut l'acquérir au travers des équivalents de la richesse. Donc, ce grand projet, nous n'avons travaillé Pour ma part, je ne me suis occupée que du palais social, qui est quand même une pièce essentielle, puisque c'est une, elle est appelée également Familistère, donc par un jeu métonymique, on peut dire qu'elle représente le Familistère en lui-même. Et ce palais social est donc le pavillon central de cet ensemble de logements, logements collectifs, qui est devenu une icône de l'histoire de l'architecture. Et tâche impressionnante que d'investir ce pavillon central pour en faire un musée de site avec une programmation double. D'une part, parler de l'architecture du lieu, d'autre part, parler de l'aventure familistérienne en ce site. Donc cette coupe un peu iconique de Gaudin qui fait partie de Solutions sociales, un des grands ouvrages qu'il a publié, dans lesquels il détaille beaucoup des dispositions construites du bâtiment. Cette coupe donc est devenue une sorte de référence pour les architectes, pour les sociologues, comme une sorte d'ovni du logement social, une sorte de dinosaure qui a informé, parfois repoussé, toute l'histoire du logement social, à peu près toutes les expérimentations en logement collectif par la suite. Et nous devions donc intervenir dans ce palais social, dont la cour est une icône. Donc, puisque le projet de... au Familistère, plus exactement, l'architecture est la traduction physique d'un idéal social imaginé au XIXe siècle. L'ensemble des dispositions architecturales sont pensées et mesurées à l'aune de cet idéal. Donc, dans cette coupe, par exemple, on peut comprendre que les sous-sols sont en fait une sorte de réservoir d'air qui alimente les conduits, et l'air circule à travers ces conduits pour ventiler les appartements, et les poêles prennent le relais de l'air neuf pour chauffer les appartements. On peut comprendre, donc première disposition construite, on peut comprendre que la hauteur décroissante des étages correspond également à une pensée hygiéniste, puisque l'air, la lumière est plus rare en partie basse. Les galeries périphériques, les coursives qui desservent les logements sont également une expression de la pensée unitaire et égalitaire. Et le décollement de la toiture est pensé en fonction de la ventilation de la grande cour centrale, etc. etc. Donc chacune des dispositions construites, même les plus triviales, finalement porte trace d'une pensée réformatrice. Et donc on est bien dans un discours construit, qu'il s'agit néanmoins d'investir, qu'il s'agit de rendre accessible à beaucoup de monde, donc avec des surcharges de plancher plus importantes, avec des problèmes de sécurité incendie. Donc c'est là qu'on retrouve à nouveau ce conflit entre la valeur d'histoire, qui est là massive dans le cas du Familistère de Guise, et les valeurs d'usage qui imposent donc que les visiteurs ne se cassent pas la figure, qu'ils puissent se restaurer, qu'ils puissent se laver, etc. Donc, modifier une disposition construite consiste à modifier une proposition théorique mûrement réfléchie par Gaudin, puis concrétisée et le plus souvent, très souvent, explicitée dans ses écrits, notamment dans Solutions sociales. Donc, cette caractéristique pouvait être paralysante, mais elle nous a plutôt aidés à trouver les règles de la transformation. On a choisi de travailler à partir du bâtiment lui-même, donc soustraction, modification, addition, en vertu des logiques qui sont déjà mises en place dans le bâtiment, donc la trame, la modularité, l'économie de moyens, tout est en briques, briques et bois, donc il y a un petit nombre d'éléments, on a travaillé avec un petit nombre d'éléments, la trame est régulière, on a travaillé de façon régulière, il y a des trames fortes et des trames faibles, donc une extrapolation qui permettait, disons, de rentrer dans la logique du lieu, et donc, en principe, on l'espère, dans la pensée du lieu. Et puis, d'une autre manière, en rajoutant une couche un peu, de propos muséologiques au travers de la muséographie, notamment par les fabriques de l'utopie ou par les expositions des machines à habiter ensemble. Donc on voit en haut certaines des maquettes réalisées pour le lieu, puisque un musée de site et a fortiori celui du fameux ministère de Guise où l'architecture, la forme des lieux est importante. Un musée de site et donc implique toujours un petit peu une sorte de mise en abîme, puisqu'on vient voir ce dans quoi on est, et cette mise en abîme peut se prolonger de façon assez simple finalement par des représentations comme des maquettes où on voit là le jeu modulaire, enfin en tout cas pré-standardisé pourrait-on dire, des logements traversants proposés par Gaudin à une population. Donc, transformation de la trame, comment passer tout en conservant les coursives, comment passer à une organisation linéaire, donc par une file didactique où on trouve toujours l'information, quelle qu'elle soit. Les présentations donc, sur l'histoire industrielle et l'explosion d'un poêle, donc une nouvelle transparence entre cour et jardin. La position des escaliers merveilleux qui n'est pas perturbée par la mise en place d'une grande coupe grandeur nature que l'on a pratiquée pour faire lire le bâtiment en lui-même. Donc coupe grandeur que l'on voit ici à gauche le bâtiment tel qu'il est, à droite la grande trémie qui a été pratiquée pour installer un ascenseur donc panoramique, scénographique, qui parcourt l'empilement des étages, fait lire les fameux conduits qui ont été mis à nu ici, fait lire la disposition hygiéniste du bâtiment et le face-à-face avec les visiteurs de part et d'autre de cette grande trémie, de cet écorché, qui se prolonge ensuite à travers le bâtiment en un écorché où l'on comprend l'efficacité de la construction de Gaudin, les refends porteurs, le type de la chair finalement du bâtiment inventé à cette époque-là. Et la mise en abîme, donc, avec, sur le lieu même, des dispositifs muséographiques pour expliquer les lieux prolongés par le thème des machines à habiter ensemble, tel qu'il a pu être décliné dans le fil du XXe siècle. Donc, les ingrédients de l'architecture en place, donc, dans ce jeu de l'échelle 1 du musée en lui-même. Les scènes d'intérieur, qui sont des salles réservées aux. Des sortes de reconstitutions des différentes tranches de vie des personnes qui ont habité le familistère. Et enfin, la cour, le dispositif de la cour, où nous avons choisi, puisque la cour elle-même est une icône de l'architecture, de l'histoire sociale, de l'histoire politique, comment faire pour. Pour y faire quelque chose, la réponse a été de ne rien y faire, justement, de la laisser dans sa nudité, et en revanche de travailler une sorte de machine sonore dans les sous-sols qui permettrait d'imaginer à nouveau le flux hygiéniste qui traverse le bâtiment. Et enfin, et pour conclure, donc en guise de conclusion, ce musée du Familistère donc est à la fois un musée technique, un musée de société, un musée d'architecture aussi, mais c'est aussi un musée habité. Et le maintien de ces habitants qui occupent encore le pavillon central, même s'ils ne sont pas très nombreux, et qui occupent et occuperont encore tout le site, est un choix, a été un choix qui nous a beaucoup importé pendant la fabrication du projet et qui est surtout un choix des porteurs du projet, un choix politique et éthique. Donc, à la question du musée de site, c'est ajouté pour nous la question de la cohabitation et donc de l'organisation quotidienne entre les visiteurs, les gens qui travaillent sur le site, les habitants. Et cela me permet de rappeler l'une des choses qui me paraît le plus important dans cette extension, cette prolifération des musées dans nos sociétés, c'est que les musées dans le meilleur des cas, ne sont pas que des lieux de mémoire à visiter, mais aussi des lieux de vie à investir. Je vous remercie.